Radio Kapi. Oh, Kapi. Jean-Désiré Kanyama pour les journaux.
Au sommaire, ce matin, trois organisations de la société civile viennent de mettre sur pied à Kinshasa le projet Acte 2023 Unis pour la démocratie. Le CEPAS, l'INADES, Formation et l'Institut congolais de recherche Ebouteli visent par ces projets à orienter la population et les parties prenantes au processus électoral de décembre 2023 à minimiser les risques de violences électorales. Nord Kivu, une dizaine de groupes armés impliqués depuis le 1er octobre dernier dans la résurgence des affrontements contre la rébellion du M23. Plusieurs villages qui étaient déjà réoccupés par les rebelles sont passés sous leur contrôle. Nous vous proposons dans ce journal la cartographie de ces groupes armés impliqués dans ces affrontements. L'invité de ce journal est le chef de la composante police de la MONUSCO, le général Maudi Bereté, parle de l'héritage que la police de la mission onusienne UNPOL va léguer à la police nationale congolaise. Vous le savez déjà, c'est en perspective du départ imminent de la mission onusienne de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Processus électoral en cours en RDC. Le Centre d'études pour l'action sociale CEPAS, l'Institut africain pour le développement économique et social INADES Formation et l'Institut congolais de recherche Ebouteli ont lancé hier mardi à Kinshasa les projets Acte 2023 Unis pour la démocratie. Selon le directeur du CEPAS, ce projet vise à orienter les parties prenantes à adopter un comportement responsable susceptible de minimiser les risques de violence électorale. Appuyé par l'Union européenne, ce projet va améliorer et en même temps renforcer la culture citoyenne par la consolidation de l'éducation civique et la sensibilisation électorale pour une participation responsable et apaisée de tous les Congolais. Les détails de Grâce Amzati Masanzi.
Acte 2023, Unis pour la démocratie, pour quel objectif ? Le père Alain Zadi Anzadi, directeur du CEPAS.
C'est un projet qui vise à éduquer notre population à la culture démocratique pour qu'elle pose des actes éclairés. Poser des actes éclairés, c'est se choisir des représentants qui seront à même de mener ce pays vers son développement, le développement que nous voulons tous.
Et pour quelle finalité ?
Pour que les élections que nous aurons en décembre 2023 soient des élections transparentes, crédibles, apaisées et inclusives.
L'INADES Formation agit en partenariat dans ce projet. Norbert Kimvula est son directeur.
Il y a eu un projet en consortium sur l'éducation civique et électorale. Il y a eu déjà une base en ce qui concerne l'éducation civique et électorale. Et maintenant, nous voulons aussi accentuer pour que l'on arrive à des élections transparentes et apaisées.
Un processus qui va continuer jusqu'en 2025, touchant aussi la période post-électorale.
C'est vrai que nous visons à des élections de 2023 pour qu'elles soient des élections transparentes et apaisées. Mais il y a aussi toute la période post-électorale. L'éducation civique, c'est un processus continu.
Et justement, après la clôture de l'opération de réception et traitement des candidatures à l'élection présidentielle de 2023, certains observateurs fustigent la suite du calendrier électoral. C'est le cas du professeur Bob Kabamba, enseignant à l'Université de Liège en Belgique. Il pense que ce calendrier n'est pas cohérent, étant donné que la liste définitive des candidats sera publiée le 18 novembre, soit la veille du début de la campagne électorale. Intervenant dans l'émission Dialogue entre Congolais de Radio Kapi lundi dernier, ce politologue estime que cela risque de perturber la préparation de la campagne électorale des candidats qui se verraient écartés, mais aussi mettrait en mal les éventuelles stratégies de l'opposition. On écoute le professeur Bob Kabamba.
Quand je compare un peu par rapport à d'autres scrutins, on se rend bien compte que dans le contexte 2006, 2011 et 2018, les listes définitives étaient toujours publiées, plus ou moins, j'ai fait une moyenne, 2 mois et demi avant les échéances. Lorsqu'on publie la liste définitive des candidats présidents le 18 novembre, la veille de la début de la campagne électorale, comment voulez-vous que les gens puissent faire campagne électorale tout en sachant pas s'ils seront retenus sur la liste de manière définitive ou pas? Alors si un candidat aujourd'hui est sur la liste et qui va commencer à faire commande des t-shirts, tout ce que nous connaissons, que nous savons toujours ce qui se passe par rapport à la campagne électorale, et qu'on arrive à la veille, début de la campagne, le candidat est déclaré non recevable ou bien non retenu sur la liste. Et quelle sera sa réaction? Ceux qui sont à la manœuvre, ceux qui sont au pouvoir, pourront sans ambiguïté utiliser les moyens de l'État pour pouvoir faire campagne, tandis que les autres ne pourront pas faire campagne tant qu'ils n'auront pas la liste définitive. Et donc là, c'est véritablement une espèce d'inégalité qu'il y ait entre les candidats qui aura des répercussions même sur la dynamique que l'opposition pourrait lancer, c'est-à-dire essayer de pouvoir arriver à avoir un candidat commun.
En réaction, le directeur de communication de la CENI affirme qu'il s'agit d'une contrainte reprise dans la loi électorale. La dite loi déclare que la liste définitive des candidats à président de la République intervient 24 heures avant le début de la campagne électorale, rapporte Jean-Baptiste Itipo. Toutefois, pour faciliter la tâche aux candidats afin de bien préparer leur campagne et ainsi contourner cette difficulté, les numéros qui seront repris au regard du nom de chaque candidat sur la liste provisoire seront considérés comme définitifs, affirme la CENI. Jean-Baptiste Itipo.
L'article 110 oblige la CENI à publier la liste définitive des candidats 24 heures avant la campagne électorale. Et la CENI a juste appliqué cela. Et devant cette difficulté et dans les soucis, n'est-ce pas, de faciliter la tâche aux différents candidats, la CENI a dit dans son communiqué de presse que lorsqu'elle publiera la liste provisoire, les numéros qui seront à côté du nom de chaque candidat seront considérés comme étant des numéros définitif. Ceci, c'est pour permettre, n'est-ce pas, aux différents candidats de bien élaborer leur matériel de campagne. Mais si jamais à tout hasard, au niveau du contentieux électoral, un candidat arrivait, n'est-ce pas, à tomber, il tombera avec son numéro. Et les candidats qui restent avec son numéro.
N'est-ce pas cela risque de créer une frustration, par exemple, à un candidat qui avait déjà préparé sa campagne électorale et qui se voit écarté la veille de cet événement?
Non, ou bien nous voulons la loi ou nous ne la voulons pas. Celui qui est sûr de son dossier n'a pas, n'est-ce pas, à craindre. Nous espérons que tout se déroulera très bien.
Un dossier signé grâce à Mzati Massanzi. Au Nord Kivu, je le disais au début de ce journal, une dizaine de groupes armés sont impliqués depuis le 1er octobre dernier dans la résurgence des affrontements contre la rébellion du M23. C'est dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Plusieurs villages qui étaient déjà réoccupés par les rebelles sont passés sous leur contrôle. Cette situation est observée sur l'ensemble de la partie est du territoire de Masisi. Bernard Nyangui revient ici sur la cartographie des principaux groupes armés impliqués.
Dans l'est du territoire de Masisi, et cela jusque dans une grande partie de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, c'est la coalition dénommée les Volontaires pour la Défense de la Patrie, VDP, qui est déployée dans la zone. Cette coalition est composée entre autres de l'Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain, APCLS, de Janvier Karahiri, Ndouma pour la Défense du Congo NDC Rénové de Guido Mouissa, et de la coalition de Bouma pour le Changement SMC de Santos Dominique et Jules Moulumba. Elle comprend également les Nyatura de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains, ANCDH de Jean-Marie Bonané. La coalition VDP réoccupe actuellement la quasi-totalité des villages qu'avaient déjà conquis les rebelles du 1-23 dans cette partie de Masisi. Dans le territoire de Nyiragongo, on parle d'un nouveau groupe armé dénommé Union des Forces Patriotiques du Congo, IFPC, qui opère depuis quelques semaines autour de Kibumba et de Bumba. En territoire de Rutshuru, en revanche, le Front des Patriotes pour la Paix, FPP de Gabidon, l'Alliance des Forces de Résistance Congolaise, AFRC de Kakule, le Mouvement Populaire d'Autodéfense, MPA, et la Coalition des Mouvements pour le Changement, CMC-FDP, sont les plus cités. Ils opèrent notamment dans une grande partie de la chefferie de Boucha, ainsi qu'au nord de Bwito. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
De son côté, le facilitateur du processus de Nairobi, dirigé par l'EAC, dit condamner l'escalade des hostilités, le meurtre et les déplacements des populations signalés dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta appelle toutes les parties engagées dans de tels actes à cesser immédiatement leurs offensives armées et leurs hostilités. Cela, dit-il, pour permettre la poursuite d'un accès humanitaire durable et sans entrave et donner une chance à une solution non militaire aux problèmes à travers le processus de paix de Nairobi dirigé par l'EAC. Cet appel intervient justement pendant que de violents affrontements sont signalés depuis quelques jours entre la coalition des groupes armés locaux et les rebelles du M23 au Nord Kivu. Et pendant ce temps, toujours au Nord Kivu, le Programme alimentaire mondial dénonce la commercialisation des denrées alimentaires qui sont distribuées aux personnes vulnérables et en situation de besoin. Il s'agit notamment de l'huile végétale, la farine de maïs et de blé, haricots et tous les suppléments qui visent à améliorer la nutrition des populations les plus vulnérables pendant la période critique. Le PAM informe toute l'opinion qu'il est illégal d'acheter ou de vendre ces produits et que les personnes qui seront prises en flagrant délit feront l'objet de poursuites par les services de sécurité. Plus de détails avec Sifa Maguru.
D'après le PAM, alors que les efforts de tous devraient converger pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui affecte les vies des milliers de personnes déplacées vulnérables, certains individus en quête de gains faciles exploitent les déplacés qui souffrent en achetant leur assistance à des prix dérisoires, ce qui fait que des denrées alimentaires du PAM se retrouvent sur les marchés. Le PAM déplore vivement ces agissements et informe toute l'opinion qu'il est illégal d'acheter ou de vendre ces produits. C'est une violation flagrante des principes humanitaires. Les personnes qui seront prises en train de vendre ou d'acheter ces produits feront l'objet de poursuites, prévient ce communiqué du PAM. Ces actes pourraient même amener à la suspension de l'assistance humanitaire en défaveur des personnes et communautés dans les besoins. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Et dans la province de la Tchopo, les déplacés du conflit communautaire Mbole-Lengola, hébergés au site de la paroisse Sainte-Marthe de Lubunga, plaident pour une assistance humanitaire de la part du gouvernement et ou de ses partenaires. Dans une déclaration faite à la presse hier mardi à Kisangani, ils disent être abandonnés à leur triste sort. En conséquence, plusieurs cas de maladies dont la malnutrition des enfants sont signalés. 6 d'entre eux sont d'ailleurs décédés au cours de ces deux dernières semaines, rapporte Jean Bekapa, leur porte-parole. Son propos ont été recueillis par Jacques Moukonkole.
Les déplacés de Lubunga ne bénéficient aucune aide de divers partenaires humanitaires. Jusqu'à ce jour, nous sommes oubliés à tout. Ce désordre organisé par les inciviques, nous avions fait une gymnastique de quitter nos résidences habituelles et se retrouver tous à la paroisse Saint-Marthe de Lubunga où nous avons trouvé une maison d'accueil à travers notre bourgmestre, là où nous sommes logés, un bon nombre et d'autres restent aux maisons de leurs frères Kaloukoussa ainsi que dans les églises. Car nous avons perdu nos résidences habituelles, incendiées par les inciviques. Nous perdons les moyens matériels et financiers, également la part de nos personnes humaines. Nous, les déplacés de la commune Lubunga, nous demandons aux personnes de bonne volonté, la société civile, les organisations non gouvernementales, de nous assister car ce fléau engendre dans nos foyers de diverses maladies liées au manque de prise en charge adéquate.
Et pour Bernadette Foura, ministre provinciale du genre et action humanitaire de la province de la Tchopo, des plaidoyers sont en cours afin d'essayer de trouver des solutions idoines à leurs préoccupations. En Ituri, l'Organisation mondiale de la santé a remis hier mardi à Bunia 4 tonnes de médicaments au gouvernement provincial. Cela en vue de prévenir les maladies telles que la rougeole, la méningite, des infections et la peste qui affectent une dizaine de zones de santé dans cette province. Selon les coordonnateurs terrain de l'OMS en Ituri, cette dotation vise à faciliter l'accès aux soins de santé à des milliers d'habitants affectés par la crise humanitaire suite aux conflits armés à répétition. Des détails avec Neema Magira.
14 zones de santé sur les 36 que compte l'Ituri vont bénéficier de ce lot de médicaments. Selon l'OMS en Ituri, 10 zones de santé courent un risque élevé d'épidémie de rougeole, tandis que la peste est endémique dans la zone de santé de Reti, dans le territoire de Djougou. Les zones de Drodro et Nizi ont enregistré plusieurs cas de méningite. Et dans plusieurs sites des déplacés, les cas d'infection sont régulièrement signalés. Selon le ministère de la Santé en Ituri, ce don vient répondre aux besoins sanitaires dans les entités affectées par ces maladies. Cependant, des efforts doivent être fournis pour la couverture sanitaire de toutes les zones de santé de la province où les mêmes pathologies sont enregistrées. Docteur Richard Kitengi.
Nous réceptionnons ce qu'il y a ici, mais nous continuons à faire le plaidoyer pour permettre que la province garde un grand stock.
Le gouverneur de la province de l'Ituri, tout en remerciant l'OMS pour cette dotation, a instruit la division provinciale de la santé d'en faire bon usage en faveur de la population en souffrance. Le général Johnny Luboya Nkashama.
Je demande à la DPS d'en user en bon père de famille, que ces médicaments puissent profiter à toutes ces populations qui souffrent de certaines maladies dont peut guérir les médicaments nous offerts.
Un mécanisme de suivi est mis en place pour une meilleure gestion de ces médicaments. Bounia, Marine Mamagira, Radio Okapi.
En bref, la Coordination nationale du renforcement du système communautaire CNRCS a présenté hier mardi à Kinshasa les plaidoyers politiques et communication contre la trypanosomiase humaine africaine. C'est dans les efforts tendant à éliminer cette maladie dans trois provinces endémiques de la RDC, dont les Maïndombé, les Kwilu et les Kwango à l'horizon 2023. Ce projet qui a une durée de 3 ans est financé par Bill et Melinda Gates Foundation. Il a comme nouvelle approche le dépistage et le traitement rapide dans les zones à forte transmission. Après l'ex-Grand Mandundu, le projet s'étendra dans 2 autres zones endémiques de la RDC, telles que l'ex-Grand Équateur et les Grands Kassai, a dit le docteur Christian Louzombe Fini, directeur exécutif de la CNRSC.
Actualité internationale.
Les États-Unis ont formellement qualifié hier mardi 10 octobre la prise de pouvoir des militaires au Niger cet été de coup d'État. En même temps, les États-Unis ont annoncé en conséquence la suppression de quelques 500 millions de dollars d'aide économique. Et puis, le président de la transition gabonaise poursuit ses consultations avec ses pairs et ses visites dans la sous-région. Après la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et la Centrafrique, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est rendu lundi au Tchad. But de cet activisme diplomatique, obtenir une réintégration accélérée à la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont le Gabon est suspendu depuis le coup d'État du 30 août.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chef de la composante police de la MONUSCO. Le général Modi Bereté parle de l'héritage que la police de la mission onusienne UNPOL va léguer à la police nationale congolaise. Vous le savez déjà, c'est en perspective du départ imminent de la mission onusienne de la RDC. Le général Modi Bereté répond depuis Beni aux questions de Sadiki Aboubakar.
Général Modi Bereté, bonjour.
Bonjour.
La MONUSCO se prépare à se retirer du Congo, mais dans l'esprit de nombreux Congolais, au 1er janvier 2024, la mission va fermer. Qu'en est-il exactement ?
Je sais que vous faites référence naturellement aux discussions qui sont actuellement en cours avec l'expression du désir de retrait de la mission. Comme vous l'avez suivi avec la représentante spéciale, la mission attend que les orientations dérivent des discussions entre le gouvernement et le Conseil de sécurité et pour qu'on puisse savoir concrètement comment les choses vont se dérouler. Mais je sais aussi que la mission est en train de prendre les dispositions en termes de planification. La mission n'est pas en train d'attendre les bras croisés, surtout au niveau opérationnel, pour que l'on puisse être prêt une fois que ces indications vont nous être données. C'est ainsi qu'il y a aujourd'hui un comité conjoint de travail entre les FARDC, la PNC et la force et la police de la MONUSCO pour passer en revue l'ensemble des implantations et des lieux de présence de la mission. Le comité doit regarder aussi les problématiques et les fonctions qui sont remplies par cette présence de la MONUSCO, surtout dans le cadre du mandat de la protection des civils, pour voir quels sont les mécanismes de substitution une fois que la mission va partir.
Et vous étant le chef de la composante police de la MONUSCO en RDC, côté police de la MONUSCO, quel sera l'héritage légué par la mission à la police nationale congolaise?
Oui, ce que nous allons léguer, c'est le fruit d'un partenariat fécond. Donc au jour d'aujourd'hui en partant, je dois dire que en ce qui nous concerne à la police, nous sommes réellement très ravis et très satisfaits de voir que avec nos collaborateurs de la PNC, nous sommes plus dans la discussion de comment consolider les acquis. Et aussi, nous sommes en mode de plaidoyer avec les différents autres partenaires pour voir comment est-ce que les principes qu'on a pu élaborer avec la partie nationale, les plans qu'on a pu élaborer avec la partie nationale, ces plans puissent être soutenus sur le moyen et sur le long terme.
Pour terminer, général Bereté, les élections générales approchent. Peut-on savoir quel type d'appui la MONUSCO entend apporter à la CENI et au gouvernement congolais pour les élections apaisées?
Conformément à la lettre de la résolution 2666, nous nous sommes placés sur une posture qui a été définie par la représentante spéciale du secrétaire général, à savoir répondre aux demandes que la partie nationale nous formule dans la mesure de nos moyens, mais aussi dans les lieux où nous sommes présents. Donc en ce qui concerne la police, c'est un travail qui nous a été beaucoup facilité, d'autant plus que le leadership de la PNC, le commissariat général, ainsi que l'inspection générale, avaient une idée très très claire du type de besoins qu'ils avaient, qu'ils pouvaient nous demander. Et ils nous ont demandé premièrement que nous puissions assister, accompagner le processus de recrutement policier. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à pied d'œuvre avec le commissariat général ainsi que sa direction générale nationale de la formation à voir quels sont les processus de recrutement, l'infrastructure de recrutement, comment est-ce qu'on peut y contribuer. Et nous avons aussi dit que les centres des opérations, que cela soit au niveau national qu'au niveau provincial, qui permettent à la PNC de jouer son rôle dans la sécurisation des élections en ayant des capacités de planification et de suivi des opérations, que nous devions avoir un intérêt pour ça. Donc nous sommes aussi en train de voir quelle est notre contribution à cela. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on a pratiquement 3 milliers de policiers dans les provinces où nous sommes qui sont en train de faire des formations de rafraîchissement pour le maintien de l'ordre. C'est dans ce cadre aussi qu'au niveau de Kinshasa, avec différents partenaires, comme le programme des Nations Unies, comme le développement, nous avons fait beaucoup d'initiatives de formation. Et c'est aussi ainsi dans ce cadre qu'avec le PNUD, très récemment, nous avons regroupé un certain nombre d'officiers de police venant des 26 provinces et pour qu'ils puissent intégrer dans le travail policier la dimension des nouvelles technologies, la dimension de la manipulation des informations et de la désinformation pour que la police puisse être bien outillée, non seulement pour anticiper, donc prévenir certaines choses, mais aussi être capable de comprendre les phénomènes et les dynamiques et pouvoir réagir à cela.
Général Maudi Bérété, merci.
Merci.
Et c'était notre invité, le chef de la composante police de la MONUSCO. Le général Maudi Bérété répondait depuis Béni aux questions de Sadiki Aboubakar. Fin de ce journal qui a été coordonné par Pelé Kipela Mondo sous la mise en onde de Jean-Claude Siala. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.